Nadwa.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.
Salam alaikum. C'est un plaisir donc pour moi, comme directeur des archives du Maroc, Jem Abaïda, d'animer cette table ronde consacrée à mémoire, est-ce que mémoire au singulier ou au pluriel, et archives. La problématique de mémoire et archives se pose chez les chercheurs avec acuité, comme d'ailleurs se pose la grande question de mémoire et histoire. Toutes les deux, ce n'est pas évident. Est-ce que mémoire, c'est histoire, ou bien histoire, c'est mémoire? Ce n'est pas beaucoup d'acteurs d'histoire, on l'a vu récemment au Maroc, écrivent sur la base de leurs archives personnelles et uniquement personnelles, écrivent leur mémoire, qu'ils présentent souvent comme histoire. Alors que ce n'est qu'un angle de vue susceptible d'être revu et corrigé par les historiens, les chercheurs académiques. En d'autres termes, d'après moi du moins, un acteur apporte une parcelle de vérité au grand puzzle que constituerait la fresque historique. Nous avons trois invités, le quatrième est dans un avion entre le Qatar et c'est Abdelwahed Agmir est dans un avion entre Qatar et Casablanca. Donc je suis honoré d'avoir avec moi c'est Abdelhay El-Mouden, que tous les Marocains connaissent, du moins tous les universitaires marocains connaissent, professeur de sciences politiques à Rabat, mais aussi un militant des droits de l'homme et un ancien membre de l'instance Équité et Réconciliation. Et ce n'est pas rien que de voir sa présence parmi nous, instance Équité et Réconciliation. C'est quand même grâce à ses recommandations qu'il existe aujourd'hui au Maroc un établissement qui s'appelle Archives du Maroc. Donc merci, Sy Abdelhay, d'être parmi nous. Nous avons un jeune historien, mais très prometteur, c'est Abdelaziz Tahiri. Il est là non seulement parce qu'il a été mon étudiant, mais parce qu'il a produit une thèse publiée sur mémoire et histoire, Al-Dhakiratu wa Al-Tarikh, et qui a beaucoup travaillé sur la période du protectorat. Son travail a été d'ailleurs couronné par le prix du livre l'année dernière. Oui, l'année dernière. Donc c'est 2017, au titre de 2017, prix marocain du livre. Donc sa présence parmi nous donc est tout à fait justifié. Et puis à ma droite, mon collègue Hervé Magro, directeur des archives diplomatiques de France. Quand on dit archives, eh bien, pour archives diplomatiques de France, aussi bien à la Courneuve qu'au centre de Nantes, pour les historiens marocains, ça reste notre source essentielle, notre réservoir, étant donné que dans ces deux centres sont disponibles beaucoup d'archives, aussi bien pour la période précoloniale, pour la Courneuve, que pour la période du protectorat. Et M. Hervé Magro est aussi un partenaire des archives du Maroc, puisque nous montons un ensemble d'opérations bénéfiques pour la question des archives au Maroc. Donc je vais commencer par Abdelaziz Tahiri pour la simple raison que ma question qui s'adresse à lui, c'est d'abord qu'est-ce la problématique de la mémoire et de l'histoire. Et puis, et la place, mémoire et histoire, et la place des archives entre ces deux concepts. Nous avons une mémoire, nous avons l'histoire, les deux puisent dans les archives, mais est-ce que ça ne pose pas problème ? Quand quelqu'un qui écrit ses mémoires puise dans ses propres archives, quand un historien puise dans des archives, quel est le problème? Je sais que tu as confronté ce genre de problème dans la rédaction de ton travail. C'est Abdelaziz.
Ok, merci beaucoup, cher professeur. بالنسبه لهذا الموضوع, موضوع العلاقه بين الذاكره والتاريخ والأرشيف, يمكن القول أن الأرشيف يقع في منطقة وسطى بين الذاكرة والتاريخ, فالذاكرة هي الأم بالنسبة للأرشيف وبالنسبة للتاريخ, بمعنى أن الأرشيف والذاكرة أو الأرشيف والتاريخ قد ولدا في حضن الذاكرة. فالذاكرة في البداية كانت ذاكرة شفاهية, كانت ذاكرة داخلية أي خاصة بالإنسان, لكن هذه الذاكرة الشفاهية كانت في حاجة إلى دعامات مادية لكي تواجه الضعف الذي تتميز به هذه الذاكرة. الذاكرة بما هي القدرة على حفظ أشياء وقعت في الماضي والقدرة على تمثلها أي صياغتها في شكل صور ذهنية والقدرة على استعادتها, بمعنى عندنا ثلاثة مراحل من الذاكرة. فهذه الذاكرة تعاني من إشكاليات كبيرة, من بينها أنها معرضة للنسيان وللضعف وللتقصير ولأشكال من الآفات, الشيء الذي يجعل الإنسان يعتمد ذاكرة أخرى ليست طبيعية وإنما ذاكرة اصطناعية artificial, عبارة عن دعامات يكتب عليها مجموعة من الأشياء التي يرى أنه من الضروري أن تستدام, أن تستمر, سواء لأهداف اقتصادية تجارية أو دينية أو سياسية إلى غير ذلك. فهنا خلق الأرشيف, وبالتالي يمكن أن نقول أن الأرشيف أو الأرشيفات بالجمع هي وليدة الذاكرة. ثم هذه الأرشيفات تطورت بشكل كبير جدا, وتحولنا من الأرشيفات بصيغة المفرد إلى الأرشيف بصيغة الجمع إلى الأرشيف بصيغة المفرد, أي البنية التي يتم فيها تنظيم وتنسيق وترتيب الأرشيفات. وبالتالي يمكن أن نقول أن الأرشيف تحول هو نفسه إلى موقع من مواقع الذاكرة, إلا أنه يجب أن نؤكد على أنه لا يمثل كل مراحل الذاكرة. يمكن أن نقول أن الأرشيف هو اللحظة الأولى أو المرتبة أو الرتبة الأولى من الذاكرة, بمعنى آخر هو يحفظ الذاكرة وليس كل الذاكرة, لا يتمثل الذاكرة, لا يستعيد الذاكرة, هو يحفظها. لهذا ينبغي أن يأتي من يعمل على استنطاق هذه الذاكرة الأرشيفية, وهنا يأتي دور المؤرخ. وبالتالي يمكن أن نقول أن الأرشيف هو وسيط بين الذاكرة وبين التاريخ. فالتاريخ أو المؤرخ عندما يشتغل على مادته ويشتغل على أرشيف الذي هو في نهاية المطاف وفي مبتدئه هو عبارة عن مادة آتية من الذاكرة, لكن على المؤرخ هنا أن يحتاط بشكل كبير من هذه الذاكرة الأرشيفية. ما دام أننا نتحدث عن الذاكرة, فالذاكرة تتميز بكثير من الانتقائية بكثير من الانفعالية بكثير من العاطفية، تتحكم فيها هواجس سوسيولوجيا وهواجس ورهانات سياسية. وأذكر أن في اللغة الإغريقية كلمة أرشيف تأتي من أحد الكلمات الاشتقاقية هو أرخي، والذي يعني في جوج ديال المعنيين، معنى البداية ومعنى القيادة. معنى البداية بمعنى أن أي بداية لمعرفة الماضي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الأرشيف. ثم القيادة لو كوموندمون، بمعنى أن الأرشيف يعبر عن السلطة السياسية التي تنتج هذا الأرشيف.
Je reviendrai à toi tout à l'heure pour résumer un petit peu. C'est Abdelaziz voit que l'archive, après la dominance d'abord de l'archive orale, l'archive écrite, matérialisée et matérialisée, on reviendra à la dématérialisation après, matérialisée était devenue une nécessité pour pérenniser la mémoire. La mémoire étant très restreinte dans le temps, hein, ses capacités ne pouvant pas aller au-delà d'une certaine échéance, l'archive matérielle, par contre, est là pour pérenniser et en même temps devenir la référence à laquelle n'importe qui, non seulement le narrateur, non seulement l'historien ou celui qui raconte, celui qui écrit, mais tout le monde pourrait vérifier, pourrait avoir comme base un repère de véracité, de vérification. Très très bien. Maintenant, je vais me retourner vers Abdelhaï El-Mouden, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, a vécu une expérience unique au Maroc, l'expérience de l'instance Équité et Réconciliation. Et il a beaucoup travaillé sur les archives, étant donné que cette instance, qui a eu à faire sa mission en 23 mois, a buté contre la difficulté de trouver des archives ou trouver des archives organisées au moins. Bon, ce sera ma première question à Abdelhaï El-Mouden. Ton expérience personnelle au sein de l'instance Équité et Réconciliation, en relation bien entendu avec la question des archives.
Merci mon ami Jamin. Moi je lis la question des archives et de l'expérience de l'instance Équité et Réconciliation dans le contexte culturel et politique du Maroc. Une première remarque, c'est ce qui a dans ce sujet, en relation avec ce sujet, c'est que non seulement l'IER, mais plusieurs chercheurs et plusieurs institutions constatent toujours l'absence des archives. C'est comme si il y a un effort ou une relation négative avec le passé. On essaie d'effacer une présence institutionnelle des documents, des archives du passé. Donc déjà, c'est un sujet très important, car la relation entre l'État et la société avec le passé dépend des contextes culturels et des contextes politiques. Qu'est-ce que c'est que ce contexte ? Le premier, c'est que d'abord, la relation avec les archives, la relation de l'État avec les archives est liée à la modernité. Les États européens, occidentaux, ont créé les archives dans le but d'institutionnaliser, de légitimer l'État national moderne. Alors, dans le contexte marocain, il n'y avait pas d'archives organisées avant le protectorat. La première tentative d'institutionnaliser, d'organiser les archives était le contexte colonial. Mais j'entends de temps en temps le lien qu'on fait entre démocratie et archives. Ce n'est pas le cas. Les archives sont liées à la modernisation, à la bureaucratisation de l'État et non pas à la démocratie. Car des États, d'abord l'expérience du Maroc, c'est que le contexte politique des archives était le contexte colonial, dans plusieurs États non démocratiques qui ont laissé un fonds d'archivage très riche, n'étaient pas des pays démocratiques. C'était l'Allemagne de l'Est, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Sud, etc. Donc, bref, en réponse, pour revenir à la question soulevée par Jamin, le premier constat de l'instance équité et réconciliation, c'était l'absence des archives. Mais avant l'instance équité et réconciliation, il y avait un autre événement qui a soulevé cette question de l'absence des archives, d'archives étatiques au Maroc, c'était la question du Sahara. En 75, ou même avant, l'État découvre que l'État n'a pas d'archives concernant une question centrale pour l'intérêt national. Et donc, un point très important, l'absence des archives est liée non pas seulement à la démocratie, mais c'est lié à un mode traditionnel de gérer le passé. Et ce mode de gérer le passé ne prend pas en considération, ne considère pas que maintenir physiquement les archives est une priorité. Ou même, ce n'est pas la base fondamentale de la légitimité de l'État. Donc, premièrement. Deuxièmement, l'IER... Bien sûr, on a l'expérience de l'UER a documenté cette absence. Il n'y a pas d'archives. Il y a très peu d'archives. Les archives les plus importantes et des archives que les chercheurs de l'UER, ceux qui ont mené les enquêtes, ont trouvé par hasard, des archives, des registres d'un hôpital à Fès, les archives dans une cave d'un beledia quelque part au sud, etc. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est que l'IER a créé les archives. Et les archives créées par l'IER, c'était les témoignages, les documents, les dossiers que les victimes ont fournis à l'instance. Dernier point, on parle de deux types d'archives. On parle d'archives de mémoire heureuse, la mémoire glorieuse. Ce sont les archives liées à la constitution de l'État moderne. On parle des victoires, on parle du passé glorieux. Mais de l'autre côté, il y a un autre contexte de l'archivage au Maroc, de l'histoire des archives au Maroc, c'est l'histoire pénible ou l'histoire douloureuse. Et c'était aussi le contexte de l'instance équité et réconciliation qui ressemble un petit peu à l'âge de l'ère des témoins que l'Europe a connue après la Deuxième Guerre mondiale ou après la question de coloniale pour les Français d'Algérie. Donc ce sont les points que je voulais soulever, que peut-être on va y revenir.
Très bien. Je reviendrai vers toi parce que notamment sur la question relation archives et démocratie, effectivement, mais s'il n'y a pas un lien direct et que nous savons très bien que les régimes autoritaires sont beaucoup plus ont des archives beaucoup plus organisées que les archives démocratiques, il reste quand même qu'il y a un lien en ce qui concerne l'accès aux archives. L'accès aux archives, seules les démocraties permettent un accès aux archives diverses, bien entendu, et pas celles seulement qui caressent dans le sens du poil. Maintenant, je me retourne vers mon ami Hervé Magro, et c'est pour cela que je l'ai mis en dernier pour la simple raison que je voudrais lui poser une question, non pas sur les archives traditionnel d'aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a un problème qui lui tient à cœur aujourd'hui, c'est quelles archives pour demain à l'ère numérique. Maintenant que nous avons des archives qu'on appelle des archives nativement électroniques, nous aurons certainement besoin d'autres supports pour les archives de demain. Alors, comment travaillera l'historien? Comment travailleront les gens? Donc, je sais que cette question t'habite depuis quelque temps. Je te donne la parole.
Merci beaucoup. Merci surtout de m'avoir invité ici à Casablanca pour cette belle foire du livre. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Je ne reviendrai pas, effectivement, tu as tout à fait raison sur ce qui a été dit précédemment, et en particulier sur un point qui est très important, c'est qu'en fait, les archives, au départ, ont été constituées pour légitimer l'État, pour avoir des preuves, souvent, y compris dans les relations entre les États. Et une des premières directions du ministère des Affaires étrangères, par exemple, a été le bureau des limites. Donc c'était les frontières. Et donc évidemment, il fallait avoir des cartes et des documents. Et voilà. Et ce n'est que plus tard, avec le temps qui passe, que la question de la valeur historique des archives s'est posée et que, évidemment, on est retombé dans les questions de mémoire. Mais évidemment, vous me direz, dès le départ, si on a gardé ces documents pour se légitimer, c'était quand même aussi pour faire un effort de mémoire pour avoir les documents. La réalité, en ce qui concerne les archives diplomatiques françaises, mais je crois que c'est un peu partout pareil, c'est que aujourd'hui, 90% ou 95% de nos archives sont de la période du milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, avec une augmentation formidable de l'archivage à partir du milieu du 19e siècle et puis du début du 20e siècle, avec d'abord l'invention du papier, puis de l'imprimerie, et puis des moyens de reproduction, la machine à écrire, puis ensuite tout ce qu'on a connu comme imprimante, etc. Bon. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que comment peut-on caractériser notre mémoire de ce qui s'est passé avant ce 19e siècle ? Et on travaille sur quelques documents, si on y pense. Et écrire l'histoire à partir de cette mémoire-là, c'est toujours compliqué parce qu'évidemment, on a peu de mémoire, on a peu de documents. Ensuite, on passe dans une époque où on a beaucoup de documents. Et finalement, peut-être que le problème, c'est effectivement qu'on a tellement de documents que ça demande un travail énorme. Surtout, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, si on veut faire un vrai travail de mémoire, c'est-à-dire d'aller regarder dans toutes les archives et pas seulement les siennes. Et tu as posé la question très justement. Est-ce qu'il suffit de regarder dans les archives françaises pour comprendre la politique française ? Moi, je pense que non, mais on y reviendra tout à l'heure, je pense. Voilà. Mais finalement, on a beaucoup de documents. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que sera notre mémoire demain ? Dans un contexte où les archives sont dévalorisées, quand on voit tout ce qui circule sur Internet aujourd'hui, il faut reconnaître, vous connaissez bien le problème des fake news par exemple, et toutes ces fausses informations qui circulent, personne ne va ensuite vérifier dans les archives si ce qui est dit est vrai ou pas vrai. En ce moment, j'ai beaucoup d'interrogations sur un traité qui va arriver à échéance en 1923 et qui ne va pas venir à échéance en réalité, c'est un traité. Mais il y a des rumeurs qui courent dans le monde, et en particulier dans un pays, selon lesquelles ce traité n'a jamais existé. Or, moi, je le vois, ce traité, il existe. Bon, mais peut-être que... Ou alors qu'il a une clause spéciale qui fait qu'il va être revu au bout de 100 ans. Il n'y a pas de clause... Mais ça tourne en boucle. Personne ne prend la peine de venir voir le traité lui-même. Et je pense que même si les gens venaient le voir, quelqu'un dirait que de toute façon c'est un faux qui a été fait pour justifier ce traité. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés avec un problème majeur qui est cette information qui circule et comment réintégrer les archives dans la formation de cette histoire immédiate, dans un contexte que vous connaissez bien d'éclatement de l'information. Le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons désormais sur des archives dématérialisées. Alors très rapidement, parce que Jama m'a dit... faut pas trop, voilà. Mais simplement, quand on parle de numérisation, on parle de documents en papier qu'on va numériser et qui seront accessibles ensuite sur l'ordinateur. Mais ils sont en papier. Par contre, quand on parle de dématérialisation, et c'est un objectif du gouvernement français de passer à la dématérialisation complète, ça veut dire qu'il n'y aura plus de traces papier. Ce qui pose d'abord des problèmes légaux, puisqu'il faut une signature pour authentifier. Vous voyez bien comment ça se passe sur Internet. N'importe qui peut créer des documents et faire semblant qu'ils sont vrais. Donc comment on légalise un document, et on en revient pratiquement au début des archives, comment on va légaliser ces archives électroniques ? Et puis deuxièmement, on va se poser les mêmes questions que pour du papier. Qu'est-ce qu'on garde ? Où on le met ? Si vous le savez, il y a aujourd'hui certaines entreprises se chauffent uniquement avec les serveurs informatiques qu'il y a dans le bâtiment, parce qu'ils demandent tellement d'énergie pour conserver tous leurs documents qu'on n'a pas besoin d'avoir un chauffage annexe. Vous savez que le Bitcoin, s'ils se sont installés en Islande, c'est simplement parce que ça permet de refroidir les serveurs informatiques. Donc il y a un tas de problèmes qui commencent à se poser très clairs. Et puis deuxièmement, et qui est pour nous un sujet majeur, est-ce que nous serons capables demain de lire ce que nous produisons aujourd'hui dans des formats comme Word, PDF, pour ne prendre que les plus simples et ceux que nous connaissons tous, il y en a beaucoup d'autres, notamment dans le domaine scientifique, dans le domaine économique, les tableurs, etc. Et c'est un sujet qui fait que finalement, aujourd'hui, je peux vous dire les yeux dans les yeux, nous sommes capables de lire un parchemin du Moyen-Âge. Je ne peux pas vous dire que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nous serons capables de lire un fichier Word ou un fichier PDF. Et donc, que va-t-il se passer pour notre mémoire collective face à ce nouveau défi ? Je ne veux pas dire que nous sommes retournés au Moyen-Âge, j'aime bien être provocateur, tu le sais. Nous ne sommes pas retrouvés au Moyen-Âge, mais nous sommes passés d'une époque où il y avait peu de sources à une époque où il y a tellement de sources qu'il est très compliqué d'imaginer, et surtout sous une forme tellement nouvelle que c'est une révolution majeure pour la mémoire et pour l'histoire, au bout du compte, enfin. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel, évidemment, pas seulement la France, bien entendu, hein, c'est tout le monde travaille sur le plan international, et depuis assez longtemps, c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui, mais aujourd'hui, la question se pose vraiment très clairement, parce que cette dématérialisation s'est généralisée, alors qu'au début, c'était seulement quelques espaces. Aujourd'hui, tout le monde dématérialise, et ça nous pose des problèmes, y compris philosophique, sur qu'est-ce que sera demain notre mémoire sur cette base-là.
Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas d'esquisse de réponse. Non. D'accord. Très, très bien. Alors, je reviens à C. Abdelaziz Tahiri. Toujours sur la base de ton livre sur histoire et mémoire, période du protectorat. J'ai deux petites questions. Concernant la période du protectorat que tu as très bien étudiée, il y a des épisodes où, effectivement, nous avons un manque d'archives. Et nous n'arrivons pas à nous prononcer sur des problématiques quand il n'y a pas vraiment d'archives, donc on en reste au stade des hypothèses. Et puis, donc là, c'est un problème. Et deuxième volet de la même affaire, c'est quand il y a trop d'archives, même pour la période du protectorat, mais des archives contradictoires. Moi, je pense à quelque chose dans ma tête, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu vas sortir de ton livre, où il y a des archives, mais des archives contradictoires, et le lecteur, même le lecteur averti, est souvent déboussolé, ne sachant pas trop comment appréhender ce problème.
شكرا جزيلا. هذه إشكالية كبيرة تطرح بالنسبة للباحث في التاريخ. لهذا في البداية ينبغي أن يطرح سؤال. لماذا السؤال الأول الذي ينبغي أن يتطرق له الباحث في التاريخ؟ لماذا هنالك فائض في الذاكرة في جوانب وأحداث معينة؟ بمعنى عندنا أرشيف متوفر كبير جدا يصعب إن لم نقل يستحيل الاطلاع عليه بأكمله في موضع ما، في حين أننا نجد في مواضيع أخرى قلة في الأرشيف، بمعنى فائض في النسيان. بمعنى السؤال المطروح، لماذا تم التأريخ أو التوثيق لأحداث معينة؟ ما هي الأسباب السياسية التي تكمن وراء ذلك؟ الأسباب التقنية، الأسباب الإدارية أو غير ذلك؟ ثم لماذا يتم تناسي أو نسيان أحداث معينة ولا يتم التوثيق؟ هل لأسباب أو بطريقة إرادية؟ أم لسبب يتعلق بما يمكن أن يتعرض له الأرشيف والأرشيفات من إتلاف ولأسباب متعددة، من بينها انعدام الوعي بأهمية الأرشيف، أو ما قد يتعرض له الأرشيف من يعني كوارث طبيعية مثل الحرائق والزلازل. ولو أن هذا الأمر لا يمكن أن يطرح بالنسبة لفترة الحماية، لأن البلد الحامي له تقاليد راسخة في المسألة الأرشيفية. هذا السؤال الأول. ثم إذن في الحالة الأولى التي يكون لدينا فيها نقص في الأرشيفات، إذن كيف ينبغي على الباحث في التاريخ أن يتعامل مع هذه الوضعية؟ أولا عندنا مجموعة من المقترحات كما قال السيد المدير يمكن أن يعتمد المؤرخ أو الباحث على تعديد مصادر الأرشيف، كاين الأرشيف الإسباني، الأرشيف البريطاني، بل من الأهم بمكان أن ينوع الباحث بين الأرشيف الفرنسي والأرشيف الإسباني. لماذا؟ بحكم الصراع السياسي بين الحماية الفرنسية وبين الوجود الاستعمار الإسباني، فما يخفيه الإسبان يظهره الفرنسيون، وما يخفيه الفرنسيون يظهره الإسبان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ينبغي الاعتماد على مصادر بديلة إن صح هذا التعبير، مثل المذكرات والشهادات التي تزخر بكثير من المعلومات التي قد لا ترد في الأرشيفات التي خلفها المستعمر، مع الأخذ بعين الاعتبار المزالق المنهجية والإيديولوجية والسياسية التي توجد في هذه المذكرات. ثم هنالك على المستوى الإبستيمولوجي وعلى المستوى المنهجي ينبغي الاشتغال على ما يسمى ميشيل فوكو أحفريات الخطاب، بما لا يمكن في هذا الخطاب القليل انطلاقا من الحفر في هذا الخطاب ووضعه في سياقاته ومناقشته من مختلف الزوايا، أن يستشف الباحث بعضا من الحقائق. ثم في نهاية المطاف عندما يكون هذا الأرشيف قليلا ينبغي أن يكون الباحث حذرا بالشكل الذي يعطي في نهاية المطاف فرضيات مفتوحة للزمن إلى حين ظهور أرشيفات أخرى. ثم بالنسبة للحالة الأخرى، عندما يكون الأرشيف متوفرا وبكثرة يصعب في بعض الحالات أن يتم استيعابها، والإشكال الأكبر هو عندما يكون في الأمر تناقضات كبرى جدا. وعند اشتغالي على كتاب الذاكرة والتاريخ مثلا لاحظت ذلك في المذكرات التي كتبت على فترة الحماية، هنالك تناقضات كبيرة جدا بين هذه المذكرات، رغم أن الذين يتحدثون فيها يشتركون في بعض الحالات في نفس الحدث وحضروا في نفس الحدث، ولكن رواياتهم تختلف إلى حد التناقض. ثم حتى الأرشيفات التي خلفها المستعمر تجد في بعض الحالات بعض التناقضات التي تعود إلى عدة عوامل. أولا طبيعة العلاقات التي كانت سائدة آنذاك ما بين من يصوغ الأرشيف والأشخاص أو الفاعلين الذين قد يريدون في تلك الأرشيفات. إذن هنا ينبغي على الباحث أن يقوم بالمقابلة بين هذه الأرشيفات ووضعها في سياقتها وفهمها جيدا، حتى يستجلي العوامل التي قد تؤدي إلى هذه التناقضات. وليس من الضروري في نهاية المطاف أن يحسم المؤرخ أو الباحث إلا إذا توفرت له الأدلة، أدلة الإثبات التي يحسم بها، وإلا فإنه يذكر بأن الأمر محط اختلاف وتناقض ويترك للقارئ آنذاك أن يختار الموقف أو الرأي الذي يعجبه أو الذي يصلح له أو الذي يتمناه. شكرا.
شكرا. C'est Abdelhaye Moudin, c'est tout à fait en relation avec la question que tu as traitée tout à l'heure. Les archives, il y a une deuxième question annexe qui est les archives et le temps présent. Vous savez, pour l'auditoire, le temps présent est une discipline assez nouvelle, hein, assez nouvelle au Maroc, étant donné qu'à un certain moment, il y a eu un glissement, à un certain moment, tout ce qui était contemporain, vraiment contemporain, ça appartenait au champ des politologues, des journalistes, des sociologues, mais jamais aux historiens. Mais depuis quelques années, nous avons avancé. Et notamment par d'ailleurs une des recommandations de l'instance Équité et Réconciliation, nous avons avancé pour nous intéresser à cette nouvelle discipline, malgré les critiques, qui s'appelle l'histoire du temps présent. Alors, la place des archives, certains disent qu'il y a une rareté des archives, ce que je conteste. Comment vois-tu la place des archives, l'apport des archives dans leur diversité, la diversité de leur support pour l'historien du temps présent? Et c'est un politologue qui va parler.
Au fait, il y a eu toujours au Maroc un malentendu entre les historiens et ceux qui travaillent dans le champ des sciences sociales, notamment la sociologie, les sciences politiques, les sciences économiques, parce que l'anthropologie même.
C'est jamais la faute des historiens.
Oui, ce n'est jamais la faute des sociologues non plus. Non. En fait, ça dépend des questions que nous posons. Le problème n'est pas lié seulement à la période qu'on analyse. Le problème ou la question est liée essentiellement à l'approche qu'on utilise pour répondre aux questions qu'on se pose. Parce qu'il y avait toujours un problème au Maroc, non seulement du temps présent, mais de la période coloniale. L'histoire coloniale du Maroc a été considérée comme tabou. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une continuité, qui continue toujours d'ailleurs, ce qu'il n'y a jamais une rupture dans l'histoire précoloniale, coloniale et postcoloniale au Maroc. Donc il y a eu toujours cette suspicion de considérer ou de lire l'histoire coloniale au Maroc comme la continuité de l'histoire postcoloniale. Cette histoire, ce problème, ce contexte n'existait pas, par exemple, de la même manière en Algérie ou en Tunisie. Et donc ça, c'est un point fondamental. Le contexte spécifique, politique et culturel, nous aide à répondre à la question que tu as soulevée. Deuxièmement, il y a aussi la question des méthodes. Aux sciences sociales, en général, il y a eu l'absence ou la faiblesse des approches empiricistes et la domination des approches théoriques. Et c'est pour cela qu'on ne s'intéresse, même maintenant, je sais que les archives du Maroc, les musées, les bibliothèques ne sont pas visitées par nos chercheurs. Très peu, ça c'est un problème, parce qu'on a tendance à valoriser les approches théoriques plus que l'empiricisme. Et ça c'est une question fondamentale en ce qui concerne la recherche. Troisième problématique dans cette question, c'est qu'il y a une diversité, comme a été soulevé, une diversité énorme dans les archives. Ce ne sont pas seulement les archives étrangères et les archives nationales, mais aussi il y a une diversité entre les archives écrites, les photos, la musique, etc. Et ceci, cette richesse d'archives n'est pas du tout posée d'une manière théorique ou même d'une manière méthodologique dans nos universités. Donc, la question la plus importante, à mon avis, maintenant, ce n'est pas seulement, ou de moins en moins, la question de l'abondance ou la rareté des archives, car on peut créer les archives de plusieurs manières, plusieurs sources, par des visites de terrain, etc. Donc, on peut les créer. Mais la question la plus importante, c'est quelles sont les questions que nous posons et que nous voudrions poser. Et est-ce que ces questions nous poussent à voir d'une manière empirique et de répondre d'une manière empirique, de trouver des réponses d'une manière empirique ou de surestimer les réponses théoriques aux questions que nous confrontions. Je voulais aussi, parce que j'ai oublié de faire cette remarque, je me suis posé la question, mais quelle est la traduction en arabe des archives ? La seule réponse que j'ai trouvée, c'était dans un ouvrage d'Erida que tu as peut-être que tu as mentionné, mais sans mentionner le nom, c'est que la traduction la plus proche des archives, c'est le Makhzen. Le Makhzen, c'est là, oui, le magasin, c'est là où on abrite les documents, les informations, les données, mais aussi pas seulement les données matérielles, mais aussi les données non matérielles, comme l'information.
Là, tu me rappelles quelqu'un qui m'a quasiment agressé sur ma page Facebook en disant pourquoi j'utilise le mot archive au lieu d'utiliser le mot mahfouzat ou rabaid, comme on a choisi, c'est le marhoum Ahmed Akhdar Ghazal. Ahmed Akhdar Ghazal. Ma réponse a été que d'abord, archive, le mot archive n'est pas français. parce qu'il avait confondu. J'ai dit, on dit archive, mais on dit aussi archivos, on dit aussi archives, mais on dit aussi dans plusieurs langues. Si. Puis latin, archivum, comme ça je prononce bien, archivum, etc., qui est d'abord le lieu où on conserve les archives, hein, où on conserve les registres des juges, et puis après, c'est devenu, ce sont ces registres même qui sont devenus archives. Et puis, ces deux langues grecques et latines ont semé le mot à travers le monde. Donc, il ne faut pas trop s'attacher à chercher une traduction arabe à chaque chose. Je ne sais plus qui a dit, je crois, c'était al-marhoum, oh là là, al-manjra. Je crois que quelqu'un lui avait dit, pourquoi vous utilisez, mais pourquoi vous utilisez le mot computer au lieu de l'hasoub? Et je crois qu'il lui a répondu, invente-le et nomme-le comme tu veux. puisque c'est pas toi qui l'as inventé, autant accepter l'appellation. Donc n'essayons pas trop de polémiquer autour. Et puis de toute façon, pour les archives du Maroc, hein, il y a une loi. La loi l'a appelée archive, il n'appartient pas à un directeur, hein, de changer l'appellation. Donc ça, c'est la réponse. Non, c'est pas à toi. Non, c'est juste parce que tu m'as rappelé cette discussion à travers l'internet avec quelqu'un. D'ailleurs, il est resté sur sa position et je suis resté sur la mienne. Mais c'est pas grave aussi. Je reviens à Hervé pour lui poser une question qui tient à cœur aux anciens colonisés que nous sommes. La France et le Maroc, j'aurais aimé la présence aussi de notre ami hispanisant, mais qui n'est pas là, c'est Abdelwahed Agmir. Bon, mais toute la question donc s'adresse à toi. Il y a cette question, le Maroc et la France ont une histoire commune multiséculaire, mais aussi dont une période de l'emprise colonial qui pose une question qui nous secoue de temps en temps, pas nous seulement au Maroc d'ailleurs, dans d'autres pays ayant subi l'emprise coloniale. On l'a évoqué à Yaoundé aussi. Et pourquoi? Tout simplement parce que nos chercheurs ici au Maroc, et je fus l'un d'eux, hein, pendant des plusieurs décennies, au moins trois décennies, quand ils voulaient rédiger leur thèse, étaient quasiment obligés de faire un détour, soit par Madrid, soit par les archives du Quai d'Orsay, maintenant à La Courneuve, à Nantes, à Aix, à Vincennes, voire ailleurs aussi, à Public Record Office, mais beaucoup plus à Public Record Office à Londres, etc., à Washington DC. Et la question qui se pose aujourd'hui, vous êtes le directeur des archives diplomatiques de France, la question qui se pose pour nous, c'est comment valoriser ensemble ce que j'appellerais, moi, un patrimoine, archives comme patrimoine en partage. Archives comme patrimoine en partage. L'Algérie pourrait avoir la même chose avec la France, mais aussi avec l'Empire Ottoman, avec la Turquie d'aujourd'hui. Donc, ceci, bon, il y a d'autres qui utilisent des termes beaucoup plus brutaux. Ce n'est pas mon cas. D'autres qui utilisent « displaced archives ». Hein, est-ce que les archives, elles sont nées là, elles ont pérégriné? Et ça arrive dans l'histoire du monde entier. Alors, d'après vous, monsieur Hervé Margot, comment peut-on... D'abord, est-ce que vous considérez cela comme un patrimoine en partage, les archives? Et comment pouvons-nous l'auto... comment dirais-je, en faire une valorisation commune dans le bien des deux parties, au même droit quand il y en a.
Merci. Évidemment, c'est un patrimoine en partage. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut le nier. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs. On a de plus en plus d'opérations de ce qu'on appelle les regards croisés, où on essaye de partir de ses propres archives, mais aussi d'aller voir les archives des autres pays et du partenaire en particulier. Et d'ailleurs, dans la convention de coopération que nous avons signée avec les archives royales, les archives nationales du Maroc, il y a bien cette idée d'archives des deux côtés, c'est-à-dire que c'est un échange. Et nous nous sommes engagés, nous avons déjà commencé à le faire, et je reprends l'engagement ici que nous allons continuer à donner un certain nombre de fichiers des archives du protectorat, comme nous avons commencé à le faire, donc, et puis trouver les moyens aussi peut-être d'avoir des archives marocaines qui pourraient être disponibles dans nos centres d'archives. Et là, pour le coup, l'informatique, si tout à l'heure je vous ai semblé un peu sceptique sur l'informatisation, là, pour le coup, ça peut nous permettre d'avancer plus rapidement, parce qu'en réalité, ça nous évite de transférer les archives, mais d'avoir des copies de ces archives disponibles sur un site internet ou quelque part. Donc ça, c'est un projet concret qu'on peut mettre en œuvre ensemble. Et puis aussi, je pense que pour un chercheur marocain, il est important d'avoir accès à ses propres archives, quelque part, dans son propre pays. Et ça, c'est quelque chose auquel nous sommes très sensibles. Obliger les chercheurs marocains à venir à chaque fois en France, et en particulier à Nantes, où il y a les archives du protectorat, pour venir consulter des archives qui parlent de son pays. On aime bien accueillir nos amis marocains en France, mais c'est vrai que je comprends que ça serait bien qu'ils puissent consulter les archives dans vos locaux. Et c'est ça que nous allons faire. Nous allons continuer à transférer des archives cette année, à vous donner des fichiers. Je ne rentrerai pas dans le débat que vous avez mentionné, qui est de savoir est-ce que ce sont des archives du pays où elles ont été rédigées ou du pays où elles sont, où l'autorité est aujourd'hui, parce que je pense qu'on rentrerait dans un débat sans fin. Nous considérons que les archives qui ont été produites par l'autorité française de l'époque sont des archives de souveraineté française. Donc c'est pour ça qu'elles ont été rapatriées. D'ailleurs, une partie de ces archives sont restées au Maroc, comme elles sont restées en Algérie, toutes les archives techniques, etc., des municipalités. Mais voilà, alors on peut continuer à avoir un débat là-dessus. Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat-là, que je laisse à nos hiérarchies politiques. Nous, en tout cas, nous nous sommes engagés, et nous continuerons à le faire, à transférer ces archives, si possible, à trouver un moyen aussi d'avoir les archives marocaines disponibles pour nos chercheurs en France, dans nos centres d'archives, parce que, évidemment, c'est un patrimoine partagé, et on ne peut pas comprendre la politique française si on s'en tient seulement à ce que nous avons écrit. Parce que, comme ça a été dit précédemment, la mémoire, elle est quand même sélective. Les documents, ils sont rédigés souvent avec un but bien précis. Et si on ne comprend pas ce que l'autre a ressenti sur le même événement, il est très compliqué ensuite de réconcilier son histoire. On sait que c'est très difficile. Nous avons eu, comme vous le savez, tout un travail avec les Allemands, par exemple, pour un livre d'histoire en commun. Et ça a été une aventure très, très, très difficile. Et pourtant, on pourrait penser que, on avait dépassé ces moments-là. Eh bien, non. Parce que les mémoires sont sélectives et qu'il est vraiment indispensable qu'on puisse les confronter dans un esprit de coopération. Mais en tout cas, voilà, pour nous, effectivement, c'est un sujet. Nous coopérons très bien, et je tenais à te remercier ici, devant tout le monde, avec tes services, en participant à des expositions, à des colloques. Merci de m'avoir invité ici, parce que je crois que c'est comme ça qu'on va progresser. Et en tout cas, je m'engage encore une fois à ce que nous continuions à transférer des fichiers d'archives pour que les Marocains puissent consulter les archives au Maroc. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, je réserve une dizaine de minutes qui nous reste dans le temps imparti à cette table ronde. Je réserve au public, mais des questions précises peut-être pour l'un ou l'autre des intervenants. Que l'intervention ne soit pas une autre conférence, que ce soit juste bien ciblé. Quelqu'un voudrait prendre la parole ? Professeur camerounais, qui nous fait le plaisir d'être aux archives du...
Oui, merci. J'ai une question que nous avons eu à discuter aussi à Yaoundé lors du congrès international des archives. Vous avez parlé des archives, c'est-à-dire de la souveraineté française à l'époque du protectorat. Et ça, c'est un problème qui n'est pas que marocain. C'est un problème que nous avons vécu dans toutes les colonies. Or, la question fondamentale que nous nous posons, et j'aimerais savoir si au Maroc, vous vous posez cette question, c'est que ces archives-là, pendant cette période coloniale, ont été constituées par, justement, l'administration française, qui jette donc son regard historique et qui confectionne aussi ces documents historiques. Mais le colonisé est absent de ces archives-là. Alors, est-ce qu'au Maroc, vous êtes mieux lotis que nous autres pendant cette période-là? Est-ce que ce que vous appelez les archives marocaines, est-ce qu'il y a la contribution de la mémoire marocaine pendant cette période-là, n'est-ce pas, que vous appelez à raison le temps de la souveraineté française? Parce que nous avons ce problème au-dessus du Sahara, que dans ces archives-là, on ne retrouve pas notre mémoire, on ne retrouve pas ce que les nôtres ont pu dire ou écrire. Alors, est-ce que vous avez aussi au Maroc ce problème-là, ou vous êtes mieux lotis?
Là, je peux répondre facilement, à savoir que je ne connais pas bien le cas camerounais, mais pour le cas marocain, c'est peut-être notre chance. Nous avions une administration bicéphale. En d'autres termes, le protectorat n'a pas annulé, il a légèrement écarté, il n'a pas annulé l'administration française, à l'administration marocaine. En d'autres termes, il y a toujours deux têtes, bien que la tête pensante, la tête de grande décision reste la France, reste la tête française, mais à côté, il y a toujours le Marocain, d'où tout un ensemble d'archives marocaines. Je donnerai juste un simple exemple. Pour que la résidence générale promulgue un simple dahir, c'est un décret sultanien. Il est d'abord confectionné à la résidence générale en langue française. Et puis, il va au palais royal qui traduit et amende. Ensuite, il revient au résident général pour promulguer. Donc, ça, c'est juste un petit exemple que j'ai actuellement présent à l'esprit. Donc, fort heureusement pour nous, il reste quand même beaucoup d'archives de la période coloniale, mais il y a quand même une bonne partie qui nous intéresse énormément, mais qui se trouve à Madrid, à Paris, à Nantes, etc., d'où cette question de mémoire partagée, et avec le bon sens, et grâce à la technologie d'aujourd'hui, nous arrivons à surmonter quelques réticences de jadis, et à trouver un terrain d'entente pour, grâce à la technologie, avoir des copies numériques. Voilà. Sinon, comme a dit Hervé, il appartient à le fameux débat territorialité de l'archive ou bien souveraineté de l'archive. C'est un débat qui glisse vers le politique. Et en tant que directeur des archives, je suis plutôt pragmatique. Ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, et les décisions politiques, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent et j'exécute. Mais pour être pragmatique, ce qui m'intéresse avec mon collègue, c'est qu'ils me permettent dès demain que des chercheurs, mes collègues chercheurs et mes étudiants chercheurs viennent aux archives du Maroc et trouvent la matière pour travailler.
Oui, simplement juste une précision. Évidemment, le problème vient, comme ça a été souligné, de la différence de statut entre ces différents pays. Et que dans le Maroc, Tunisie, c'était des protectorats où l'administration française n'avait pas du tout la même place, même si elle était effectivement celle qui décidait, mais elle n'avait pas du tout la même place dans le tissu social qu'elle peut l'avoir dans des colonies, qui avaient été considérées comme des colonies, voire un département comme l'Algérie, où là c'est le cas extrême, puisque l'Algérie était censée faire partie de la France. Donc c'est pour ça que vous trouverez les archives diplomatiques. Le Maroc, la Tunisie sont aux archives diplomatiques. Mais vous le savez, toutes les archives de l'Afrique occidentale en particulier se trouvent à Aix. Parce que Aix dépend du ministère de la Culture, parce que c'était considéré comme un ministère intérieur. Très rapidement, en France, il y a un système un peu particulier. Nous sommes très centralisateurs, mais évidemment, il y a toujours des exceptions. Donc tout va aux archives nationales, sauf la défense et les affaires étrangères, pour des raisons historiques. Ça a été confirmé après la Révolution française. Et donc ça veut dire que les archives de tout ce qui était considéré comme l'intérieur sont allées ensuite aux archives nationales. Et c'est pour ça qu'Aix-en-Provence dépend des archives nationales. Et en fait, tout ce qui est colonie est à Aix-en-Provence, et même l'Algérie. Alors que aux affaires étrangères, vous trouverez les protectorats, et puis après les indépendances.
Une dernière question. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai une petite question. Une question très brève. Comme sachons tous, messieurs, que les événements, les actes font plus d'impression sur nous que leurs souvenirs et leur mémoire. Bon, ça m'intéresse quand même de savoir, est-ce que le fait de contrôler ou bien juger les archives, les mémoires n'aura pas plus de conséquences positives que le fait de laisser le choix aux gens de les choisir, en fait, le soin de les choisir et d'être libre de s'informer et de renseigner.
D'abord, je pense qu'il n'y a pas, ça c'est en relation indirecte avec la question que vous avez posée, il n'y a pas une histoire, il n'y a que des interprétations des faits que nous analysons. Par exemple, si on vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être d'accord, nous tous, sur, alors que nous tous, nous sommes là ? Je ne pense pas que nous allons être d'accord pour décrire ce qui s'est passé. Deuxièmement, ce n'est pas une question simplement des archives, mais l'autre question la plus importante, c'est l'interprétation des archives. Et nous, au Maroc, on n'a pas encore soulevé cette question d'une manière très, très riche, très profonde. Comment interpréter des faits? Comment interpréter des événements? Troisièmement, et ça c'est en réponse directe avec votre question, mais qui aurait le droit de contrôler ou de fermer ou d'accorder l'accès à ces archives? Qui est cette autorité qui pourrait avoir ce droit? Et sur quelle base? Donc, au lieu de contrôler les archives, je pense que nous sommes dans l'ère où c'est le contraire qui devrait être encouragé. Les multiplications des interprétations, les multiplications des méthodes et aussi l'acceptation qu'il n'y a pas une histoire, il n'y a que des interprétations. Et c'est par l'échange entre les différentes interprétations que nous pouvons nous enrichir, nous tous, pour nous comprendre et pour améliorer nos dialogues publics.
Non, j'aurais peut-être quelque chose à ajouter, effectivement. Oui, c'est un débat. Ouais, c'est un... Bon, contrôler, si vous entendez, contrôler les archives qui doivent rester, qui doivent... Voilà. Alors là, c'est vrai que c'est assez pointu, c'est assez difficile. On dit généralement qu'il ne reste en fait, du moins pour les archives collectées, les archives des administrations publiques, et quand on parle des archives ici, on parle des archives publiques, parce que les privés, ils peuvent garder ce qu'ils veulent, ils peuvent détruire ce qu'ils veulent, hein, sauf quand ça devient patrimoine national. Hein. Mais pour cela, il y a ce qu'on appelle un calendrier de gestion, qui est, je parle du cas marocain, hein, un calendrier de gestion qui est très compliqué et qui est élaboré conjointement entre la partie productrice des archives, c'est-à-dire un ministère public, un département, un établissement, Banque du Maghreb, Royal Air Maroc, Barid du Maghreb, ministère de la Justice, etc. Donc élaboré conjointement par catégorie d'archives produites et reçues par l'organisme. Ensuite, cela passe, c'est le stade pour c'est publié, ce calendrier est publié par le bulletin officiel. Et puis après, il appartient aux archives du Maroc, quand ces archives perdent leur utilité administrative et comptable, de déterminer, ça fait partie de ses prérogations, de déterminer quelles archives ont une valeur patrimoniale statistique qui devrait rester définitivement et les pérenniser. Sinon, le reste, on détermine aussi, quand il y a des doublons, par exemple, on détermine que c'est à détruire, l'élimination. Or, ce qui est nouveau au Maroc, et tous les ministères, les départements ministériels en tremblent aujourd'hui parce que ça leur coûte cher, personne n'a plus le droit de détruire et d'éliminer de son propre gré. Nous avons des courriers qui pleuvent sur nous chaque jour, qui nous demandent l'autorisation de détruire parce que ça occupe des locaux qui coûtent cher ou qui auraient pu être utilisés comme bureaux. Et là, nous disons non, tant que vous n'avez pas une charte archivistique, tant que vous n'avez pas élaboré avec nous le calendrier de gestion qui est publié dans le bulletin officiel, vous n'avez pas le droit de détruire. Donc, nous sommes tout à fait au début du processus, mais c'est une question assez pertinente.
Oui, simplement, très vite, on a exactement la même organisation, c'est-à-dire que c'est uniquement la direction des archives diplomatiques qui autorise la destruction des archives, et c'est pareil pour les archives nationales. Il y a un grand débat, parce qu'il n'y a plus de place dans les dépôts d'archives, et donc il y a eu un grand débat l'année dernière sur faut-il créer une catégorie d'archives essentielles. Mais c'était un grand débat, c'est publiquement, c'est venu jusqu'au ministre, etc. Parce que ça veut dire on élimine tout ce qui n'est plus essentiel. Okay. Alors vous imaginez, les historiens ont tout de suite, y compris par une tribune dans Le Monde, écrit en disant mais qu'est-ce que c'est qu'une archive essentielle ? Est-ce que nous, aujourd'hui, dans cette pièce, nous sommes capables de dire que telle archive, enfin que tel papier, par exemple le bloc-notes d'ici, avec les notes de M. Baïda, finalement peut-être qu'un historien dans 20 ans ou dans 30 ans, ça sera utile pour lui de savoir pourquoi il a posé telle question, et voilà. Et c'est sans fin, quoi. C'est un débat sans fin. Mais en tout cas, nous avons à peu près la même organisation, et on considère qu'on parfois on détruit jusqu'à 80% des archives, voilà, entre 80 et 90% des archives.
Je vous remercie de votre attention.
Nadwa.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.